Alors, on a en studio 3 personnes. J'ai de la grande visite ce matin. On a José Pelletier qui est là, Pascal Durocher, François Gosselin pour parler de Parlons dysphasie. On va se l'avouer, François et moi, ça fait quelques semaines qu'on se parle de ce dossier-là. Il y a un intérêt à vraiment mettre ça à l'avant-plan, mettre ça dans l'actualité, finalement, la dysphasie dont on parle peu. Je pense que tout le monde va être d'accord ce matin avec ça. C'est quoi le but aujourd'hui de venir à CIM parler du dossier? Vous voulez mettre la pression sur le gouvernement? C'est quoi le but?
Oui. Donc, nous parlons dysphasie. Notre but, donc notre mission, c'est vraiment... Mais avant tout, moi, je suis atteint du trouble développemental du langage. Donc, ça, c'est la nouvelle appellation. L'ancienne appellation, c'était la dysphasie. Et nous, notre but comme groupe, c'est vraiment de sensibiliser la population québécoise aux troubles développementaux du langage, au niveau du public, des médias et tout dernièrement des politiciens, pour vraiment leur dire qu'on existe comme handicap, handicap invisible, et on aimerait qu'on puisse être reconnu comme un véritable trouble de santé.
C'est ça. On a une maman, ben deux mamans en fait, qui sont avec nous, Pascal, José. Le manque de services est criant actuellement au Québec et dans les Laurentides particulièrement?
Pour expliquer simplement, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est une problématique au niveau du international. Ce n'est pas juste ici qu'il manque de services. Puis une des raisons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches non plus, ni sur les causes, ni sur les traitements qu'on peut offrir aux dysphasiques. Donc ici, le gouvernement a misé principalement sur les services aux tout petits, avant l'entrée à l'école. Mais malheureusement, le trouble ne disparaît pas quand on rentre à l'école et la réadaptation est efficace même à l'adolescence. Donc, il y a comme un vide de service.
Pour les parents peut-être qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est que ce trouble-là? Comment on pourrait l'exprimer, le vulgariser très simplement aux auditeurs?
Mais en fait, peut-être Pascal pourrait rajouter par la suite, c'est la difficulté à parler et à comprendre. Alors, c'est comme si, justement, c'est comme quelqu'un qui apprend une langue seconde, mais les dysphasiques, ils sont étrangers dans leur propre langue maternelle. Mm-hmm. Alors, peut-être Pascal pourrait rajouter. Oui.
La dysphasie, souvent, dans les études, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez que c'est la dysphasie, les gens souvent pensent que c'est un problème de parole, un problème d'articulation. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complexe. C'est les règles grammaticales à l'oral, quels mots utiliser quand on parle, la formulation des phrases, dans quel ordre on va mettre les mots, comment on fait les accords, les verbes, les pronoms. Il faut tout montrer à ces enfants-là, vraiment comme si on apprend une deuxième langue, mais c'est le cerveau qui ne fonctionne pas bien. Mm-hmm. Ils sont intelligents. Dans les autres domaines, dans le non-verbal, ils peuvent être forts, mais pour le langage, c'est difficile et c'est un trouble, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est permanent, c'est développemental dans le sens qu'on est avec ça et ça va rester toute la vie, mais la réadaptation peut vraiment aider. Ça peut faire une énorme différence.
On a l'impression que ça a un lien avec la dyslexie. Est-ce que c'est vrai?
C'est pas tout à fait la même chose. Les dyslexiques ont de la difficulté à décoder les mots écrits parce que le langage écrit, c'est un code que l'humain s'est inventé. Les dysphasiques ont de la difficulté même pour le langage oral. Donc, c'est avant même d'apprendre à écrire, mais c'est sûr que si tu ne parles pas bien, si tu ne comprends pas quand les gens te parlent, c'est sûr que quand tu vas lire, tu pourras décoder si tu n'es pas dyslexique, mais tu ne comprendras pas plus ce qui est écrit puisque tu as aussi de la difficulté à l'oral.
Et là, le combat que vous menez, puis François Gosselin, je le sais, il le mène avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, parce que tu réussis dans la vie, on va se le dire, là, malgré ce trouble-là qui peut être considéré comme des obstacles, toi, tu les surmontes. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune adulte de vivre avec ça?
Ça représente beaucoup. Puis notre groupe, Parlons dysphasie, on est vraiment un groupe qui fait ça de manière bénévole. Notre but, c'est vraiment de sensibiliser. Et moi, en tant que personne de 27 ans, oui, aujourd'hui, quand les gens me voient, ils se disent « t'as pas de trouble du langage, c'est quoi cette affaire-là? » Mais c'est sûr que Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière la cravate et ça fait en sorte que j'ai dû faire beaucoup de rééducation langagière. Ça m'a pris à peu près 10 ans, 12 ans même, pour avoir un langage qui est quand même fonctionnel. Donc, le langage n'est pas parfait, mais au moins, je suis capable de me débrouiller. C'est sûr que pour arriver à ce résultat-là d'aujourd'hui, ça a quand même un coût. C'est pas gratuit, mais ça l'a permis aujourd'hui. Ben, si je me compare, il y a 5 ans et demi, 6 ans, j'étais de niveau, ben, pour moi, je me considère de niveau analphabète. Donc, je savais lire ni écrire pour quelqu'un de mon âge, donc quelqu'un au même niveau. Et c'est pour ça que je me suis... Ben, c'est pour ça qu'on s'est impliqué, on s'est réunis pour vraiment... sensibiliser, puis de mettre de l'avant un peu...
Et poursuivre les services, parce que j'ai l'impression que c'est ça. On s'était jasé, tu m'avais parlé de tes études. Là, tu en es où exactement au niveau de tes études?
Là, actuellement, je suis en train de finir mon diplôme d'études secondaires. Et au niveau de ce diplôme-là, dans le milieu scolaire, dans les années 90, en 1990, et même encore aujourd'hui, c'est à peu près le même constat. Dans le système scolaire, il n'y a pas... Bien, en fait, même mes collègues pourraient parler, eux, personnellement, mais moi, je n'en ai jamais eu au public des services...
gratuits.
Gratuits, merci, Josée, en orthophonie pour vraiment m'aider au niveau des apprentissages scolaires parce que c'est du langage. L'école, c'est du langage. La vie sociale, c'est du langage. Le travail, c'est du langage. Les relations, c'est...
Interpersonnel,
c'est tout du langage. Alors, c'est sûr que si tu ne développes pas une base du langage, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences encore plus graves à l'âge adulte.
Et c'est ce qu'on dénonce d'une certaine façon, c'est que le manque de services commence au tout petit. Pascal, vous l'avez dit, et... Ça se perd à un certain moment?
Oui. En général, si on parle de la plupart des régions, les services en bas de 5 ans sont offerts en centre de réadaptation. Puis là, c'est ironique parce que tu as toute une équipe multidisciplinaire. Souvent, les dysphasiques qui ont plusieurs troubles associés. Donc, il y a des orthophonistes, des ergothérapeutes, il y a des physiothérapeutes, des pédiatres, des physiatres, des neurologues, etc.
Parce que ça peut être aussi relié au physique par la suite, développer d'autres problèmes.
Bon, c'est compliqué un petit peu à expliquer, mais on ne sait pas encore c'est quoi les causes de la dysphasie. Il y a plusieurs hypothèses, ce n'est pas simple. Mais on remarque de plus en plus que ces enfants-là, oui, sont intelligents, ils peuvent avoir des forces au niveau non-verbal, mais ils ont souvent d'autres troubles. Souvent, ils ont des troubles d'attention, des troubles de mémoire. Ils peuvent avoir
des troubles moteurs,
des troubles auditifs. Puis on pense maintenant, en 2019, les chercheurs croient que c'est une addition de plusieurs petites difficultés qui se répercutent principalement au niveau du langage. Donc, chez les 0-5 ans, pour répondre à votre question, c'est en centre de réadaptation. Puis après, je ne sais pas pourquoi, on dit « Ah! » Il rentre à l'école, c'est l'école qui va s'en occuper. Malheureusement, premièrement, au niveau scolaire, les intervenants n'ont pas beaucoup d'études au niveau du langage et des troubles du langage. C'est bien beau d'aider à faire ton français, tes mathématiques, mais chez les dysphasiques, ce n'est pas un trouble d'intelligence, c'est un trouble du langage qui va donner toutes les difficultés. Donc, nous, c'est pour ça qu'on dit, nous, on veut que les enfants continuent à avoir des services plus tard. Si tu es sourd, tu peux avoir un implant, tu peux avoir un appareil. Si tu es aveugle, tu peux avoir une opération, des lunettes. On dirait que pour les dysphasiques, comme c'est moins connu, on n'y pense pas. Et le pire, c'est que la réadaptation, c'est prouvé que c'est efficace jusqu'à l'adolescence. C'est beaucoup plus efficace pour aider à parler qu'à comprendre, mais c'est efficace. Alors, nous, c'est ce qu'on veut, parce qu'en général, les enfants, ils n'ont plus de services au niveau scolaire. Et la majorité, d'ailleurs, des dysphasiques ne sont même pas officiellement reconnus.
C'est ce que j'allais
par
demander.
Par le ministère de l'Éducation.
Reconnus, mais est-ce que c'est facile de reconnaître ce trouble-là chez notre enfant? Parce que pour avoir ce service-là, il faut qu'il y ait eu le fameux diagnostic. Et là, s'ensuit. Ça
oui.
semble être...
C'est pas
simple. Hein?
Ouais. S'il y avait plus d'orthophonistes, oui. premièrement, là, ben, ça serait facile. Des fois, les gens disent que ça coûte cher. Oui, mais il y a beaucoup... Moi, je suis en médecine. Il y a beaucoup de coûts très élevés dans le traitement de plusieurs maladies. La dysphasie, là, c'est pas si cher que ça comparativement aux autres troubles, mais le problème, c'est comme les médecins aussi n'ont pas de formation sur la dysphasie. Quand un enfant parle mal, mais là, je vais passer la parole à Josée, mais oui. Quand les parents en parlent au pédiatre, ils vont tout de suite référer à l'orthophoniste, mais les médecins sont pas à l'aise tellement avec la dysphasie non plus.
Donc, c'est généraliser le trouble de ce trouble, finalement.
Oui. 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 Puis, si je peux me permettre, je ne sais pas avec votre question, c'est qu'il existe quelques chercheurs, mais il n'y en a pas beaucoup, qui étudient vraiment les aspects du langage. Alors, avec ça, c'est que c'est très, très difficile de ramasser des fonds pour la recherche. D'ailleurs, il n'existe aucune chaire de recherche exclusivement pour le trouble développemental du langage. Alors, ça va de soi qu'à l'extérieur, évidemment, les gens, ils font avec ce qu'ils ont, tu sais. Alors, voilà.
Oui. Là, il y a eu conférence de presse dans les dernières semaines, derniers mois. Vous avez lancé des appels à l'aide, des cris du cœur. Vous avez fait des téléphones, particulièrement François, je le sais. Ministre Lionel Carman, on a un nouveau gouvernement. Hein. Est-ce que il y a une écoute différente? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on connaît ça au sein du gouvernement Legault actuellement?
Donc, le 9 avril dernier, on a eu notre point de presse à l'Assemblée nationale pour vraiment lancer un message sur notre groupe Parlons de dysphasie. Et par la suite, quelques temps plus tard, j'ai pu rencontrer en personne
Monsieur Lionel Carman.
Merci, Josée. Le ministre délégué des services sociaux. Et il m'a dit qu'il qui voudrait nous rencontrer, nous parlons de dysphasie, pour vraiment lui parler un peu de ce que c'est le trouble, la dysphasie, et aussi en même temps un peu parlons de dysphasie. Donc là, ça, c'est en processus mais ça, c'est vraiment suite au point de presse que ça l'a permis de
d'ouvrir la porte. Exactement. D'ouvrir une discussion. Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre qui est booké, comme on dit, qui est déjà à l'agenda avec ministre?
Pardon, on n'a pas une date précise, mais on nous a dit on va les relancer. Vous faites sûr de ça. Mais ce qui est difficile, c'est que comme la dysphasie est peu connue, il n'y a pas de recherche, pas de service, il n'y a même pas de centre de recherche, même pour les parents, là, pour discuter entre nous puis développer un plan d'action, il n'y a rien après 5 ans, contrairement, tu sais, il y a les centres de réadaptation pour les déficients intellectuels puis les autistes, mais nous, on n'a même pas ça. C'est difficile pour nous de se rejoindre les parents. C'est difficile aussi pour les parents de se mobiliser parce que, contrairement à d'autres troubles de santé, c'est que la dysphasie, il faut que tu consultes plein de professionnels de la santé différents. Il n'y a plus d'équipe multidisciplinaire pour les plus vieux, donc c'est du magasinage one-to-one. Oui. Et les parents doivent investir beaucoup en réadaptation parce que tu as beau aller au rendez-vous en orthophonie, par exemple, aux 2 semaines, il y a plein d'exercices à faire à la maison. Donc, les parents qui travaillent, c'est pas évident de dire, je travaille, j'ai d'autres enfants, faut que je fasse la réadaptation. Nous, on a décidé de s'investir, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est difficile à ce niveau-là. Puis, comme c'est peu connu, il faut que les politiciens soient intéressés à la cause. Mais la dysphasie, c'est un trouble chronique. C'est pas comme si on pouvait faire une opération, passer à la télé, tout le monde nous applaudirait. Donc, la nature même du trouble fait que ça va être un travail de très longue haleine. Donc, c'est ça. Oui, on a sensibilisé, mais on est loin. C'est loin d'être terminé.
Et pourtant, je me souviens qu'à l'époque, Jean-François Roberge, à l'époque, était dans l'opposition, avait fait certaines promesses. Il n'avait pas même chapeauté une pétition qui avait été déposée officiellement à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Là, est-ce qu'il a changé d'idée, oublié un peu le propos?
Effectivement, vous avez raison. Je vais le dire, grâce à M. Roberge, on avait déposé une pétition. Puis, le but de ça, c'était vraiment de sensibiliser les politiciens, mais aussi que ce trouble soit vraiment reconnu pour un véritable trouble de santé. Ouais. Alors, on avait senti une écoute, mais encore là, faut-il prendre action Alors, voilà.
Ce qui n'a pas été fait, et, clairement.
Et si je peux ajouter à ce que mes deux collègues viennent de dire, c'est que M. Roberge, il est ministre de l'Éducation, il nous a rencontrés, c'est lui qui nous a accompagnés, bon...
En 2017.
En 2017, oui. Il est ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rien du tout. Et d'autant plus, si je peux ajouter, M. Legault, en 2001, là, il était à l'époque, quand il était ministre de l'Éducation,
dans un autre parti.
Dans un autre parti. Maintenant, il est premier ministre du Québec et pourtant, il y a...
C'est qu'en 2001, justement, ouais. Il avait fait... pas une commission parlementaire. Là,
il avait fait une promesse une de promesse, mettre sur pied un comité.
Un comité, oui.
Pour étudier la situation des dysphasiques.
Exact.
Mais il n'était pas resté longtemps ministre de l'Éducation, donc on peut l'excuser. Donc, on fonde quand même beaucoup d'espoir sur la CAQ, mais c'est un travail qui est quand même pas facile. Puis quand ils sont élus députés ou ministres, il y a toutes sortes de problématiques aussi à régler, donc c'est pas si facile que ça.
Puis d'autant plus, si je vais me permettre, M. Legault a dit avant les élections, l'éducation, c'est ma priorité. Et pourtant, dans le système scolaire, la majorité des troubles d'apprentissage scolaire sont des troubles du langage. Puis pourquoi M. Legault nous rencontre pas, parlons dysphasie. Moi, je lance un cri de cœur à M. Legault. Je dis, M. Legault, je suis atteint de ce trouble-là. J'aimerais ça que vous rencontriez notre groupe. Puis, c'est pas comme si M. Legault avait pas était pas du tout connaissant de ça. Il est déjà concerné.
Oui, et déjà sensibilisé, conscient du dossier. Oui, oui. J'aimerais ça aller un peu plus loin pour que les gens puissent vraiment comprendre l'impact dans une vie. Je pense que c'est important de le dire parce que là, on parle beaucoup du trouble, de ce qu'on demande au gouvernement, les ressources. Oui. Mais si on comprenait exactement là, dans le quotidien, ça représente quoi?
OK. Moi, je peux donner l'exemple. Mon garçon, il a 13 ans. Il commence son secondaire. Au primaire, il fait de l'orthophonie depuis qu'il a l'âge de 2 ans et demi. Donc, oui, il parle mieux. Donc, pour les conversations ordinaires, la vie de tous les jours, c'est bien. Mais plus tu vieillis, à l'adolescence, à l'âge adulte, soit pour étudier, travailler, c'est sûr qu'on a besoin d'un langage plus évolué qu'un enfant de 5 ans. Donc, lui, quand à l'école, par exemple, il y a encore des notes correctes, mais là, les professeurs me disent « Nathan, il va bien, il est gentil, il est obéissant », mais là, on commence à avoir des discussions en secondaire 1 sur des sujets particuliers en classe, puis on veut que les jeunes discutent, ils ne parlent pas. Les autres, ça parle vite, 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 mais lui, il ne parle pas. Mais là, j'explique le temps qu'il a son idée en tête, mais le temps que ça sorte, comme si on apprend, par exemple, le russe, bien, au début, on ne parlera pas beaucoup. On me dit aussi, des fois, il va répondre 5 minutes plus tard. Bien oui, ça lui a pris du temps avant de formuler, puis si le monde parle vite, il y a de la difficulté à embarquer dans la discussion. À l'écrit, il fait pas tellement de fautes d'orthographe, mais comme il y a de la misère à expliquer, surtout quand les phrases sont longues, c'est surtout la... Quand tu vieillis, la longueur des phrases avec les petits mots de relation, c'est difficile pour eux. Donc, ils parlent souvent avec des petites phrases plus simples. Donc, à l'écrit, il fait des petites phrases simples. Alors là, le professeur de français, c'était pas méchamment, il dit, il est un peu paresseux. Donc, ces enfants-là, moi, je pense que mon garçon va réussir à avoir son diplôme. En tout cas, je me croise les doigts et on travaille fort. Mais rendu sur le marché du travail, passer une entrevue, quand tu cherches tes mots, surtout si le sujet est un peu plus abstrait, c'est difficile. Donc, en résumé, pour un adulte dysphasique, la recherche, là, c'est pas nous qui le disons, 70 % des consultations en psychiatrie chez les jeunes de moins de 18 ans, c'est des enfants qui ont des troubles pour parler. Mm-hmm. C'est impressionnant. Comme François disait, 80 % des troubles d'apprentissage sont reliés aux troubles du langage oral. Mm-hmm. C'est presque la totalité. Les dysphasiques ont plus de maladies chroniques. C'est tout relié au fait qu'ils ont des troubles associés, puis aussi vivent dans des conditions moins bonnes parce qu'ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. Puis enfin, le dernier chiffre qui est quand même impressionnant, je lisais une étude dernièrement, en Finlande, ils font une étude à long terme chez les dysphasiques et 45 % des dysphasiques restent soit chez leurs parents ou sont au crochet de l'État. Ça veut dire que la moitié des dysphasiques ne vivent pas à l'âge adulte en appartement de façon autonome. Donc, ça, c'est certains exemples de ce que peut vivre un adulte dysphasique.
On n'a pas l'étude semblable ici au Canada, mais on pourrait penser avec vous, votre expérience que vous avez lue, que ça pourrait être semblable. Donc, il y a un coût relié au fait qu'on laisse un peu ça aller.
Oui,
c'est ce que je comprends.
En fait, le trouble de développement du langage, c'est 7,5 % de la population. Et ce chiffre se retrouve partout dans le monde. Et j'aurais le goût de vous dire aussi les impacts à long terme suite à toutes les contraintes que vivent les TDL, les troubles développementaux du langage au Québec. C'est que, évidemment, vu qu'ils sont très, très conscients de leur situation, parce qu'ils veulent vraiment communiquer, comme on le dit, leur intelligence, il y a zéro impact, là, leur intelligence est intacte, excusez. Alors, suite à ça, mais écoutez, ils tombent en trouble de santé mentale. Alors, ils vivent de l'anxiété. Alors, je pense que, Pascal, tu l'as mentionné tantôt, c'est 70 % justement de ces jeunes-là qui consultent en psychiatrie.
Qui ont... non, c'est 70 % des consultations en psychiatrie qui sont le fait des enfants avec troubles du langage.
Exact, exact. Alors,
en terminant pour vous, rapidement, la solution. Vraiment, ce serait quoi? C'est sûr que c'est très global, mais à court terme, qu'est-ce qu'on demande?
Ben, à court terme, on veut rencontrer des décideurs, soit des politiciens, mais aussi des gens en éducation ou en santé. Nous, on vise beaucoup les professionnels de la santé. C'est un problème très, très complexe. Mais on aimerait amener les gens à répondre à une de nos demandes qu'on a exprimées le 9 avril, c'est mettre sur pied un comité d'experts pour étudier la situation des dysphasiques au Québec, avoir le nombre de dysphasiques spécifiquement au Québec, il y aurait moyen de le faire. Puis faire plus de recherches pour donner plus de services. Mais c'est le comité d'experts.
Puis du côté d'éducation, justement, de faire ressortir, si je peux me permettre le mot, les vrais chiffres. Alors voilà, parce qu'aux yeux des chercheurs, bien, ça peut avoir un impact très important. Alors voilà.
Puis moi, si je peux me permettre, comme personne atteinte de ce trouble-là, on a plein de forces puis de capacités, mais il faut nous donner la réadaptation, l'aide qu'il nous faut pour arriver à pour obtenir un diplôme d'études secondaires, pour éviter l'aide sociale, pour éviter la santé mentale. Alors on veut rencontrer des politiciens, bon, mettre des choses en place pour qu'on évite ça, pour qu'on puisse éviter tout ça. C'est quand même... Donc, s'ils nous disent « ça coûte trop cher », ben ça va coûter deux fois plus cher si on ne nous aide pas au plus tôt. Donc, question de cohérence.
En fait, c'est prouvé. $1 investi pour chacun des TDL rapporte $6,45 environ pour la population. Et je voudrais souligner aussi que, justement, leur intelligence passe par la rééducation.
Mais là, maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Exact. Et c'est ce qu'on va demander... Merci beaucoup de nous avoir exprimé vraiment tout ça. Je vois vraiment que cette cause vous tient à cœur. Donc, José Pelletier, Pascal Durocher, François Gosselin de Parlons dysphasie, merci beaucoup d'être venu à CIM.
Merci
infiniment.
Merci de nous avoir reçus.